Alors je posais mon regard plus attentivement sur cette sphère ténébreuse et sombre à la droite du disque de ténèbres et de la nuit. Et j'y vis un mouvement comme si elle devenait de plus en plus grosse. Et je vis des points lumineux jaillir de la masse, la recouvrir comme de rubans clairs et déborder çà et là en larges taches claires. Et en même temps, je vis le profil de la terre qui surgissait de l'eau et s'en séparait. Puis, je vis un mouvement dans les endroits découverts comme si quelque chose y prenait vie. Et je vis de la végétation croître sur la terre ferme et un fourmillement de vie parmi les plantes. Déjà, dès mon enfance, le Seigneur m'avait fait voir que les plantes étaient animées de l'intérieur et vivantes. Et jusque-là, tout avait été gris, mais tout devint clair. Et je vis comme un lever de soleil. C'était comme le petit matin sur la terre lorsque tout sort du sommeil pour la première fois. C'était la première fois. Tout le reste de la vision disparut alors. Le ciel était bleu, le soleil commençait sa course. Je vis seulement une partie de la terre éclairée et illuminée par le soleil, spectacle si splendide, si beau, si ravissant, que je pensais que c'était le paradis. Et tout ceci, que je voyais toutes ces transformations sur la sphère sombre, comme un jaillissement du globe tout-puissant de la divinité, lorsque le soleil monta, tout fut comme au matin au réveil. Mais là, c'était le premier matin. Et pourtant, aucune créature ne le savait. Elles étaient là comme si elles avaient toujours été là. Elles étaient dans l'innocence. Tandis que le soleil montait, je voyais les arbres et les plantes devenus plus grands et croissants, toujours davantage. L'eau était plus limpide et plus sainte. Toutes les couleurs étaient plus pures et plus vives. Tout était indiciblement agréable. Il n'y avait pas non plus trace de ce que les créatures sont maintenant. Toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les arbres, avec d'autres formes que nous leur connaissons aujourd'hui. Maintenant, tout paraît aride et rabougri en comparaison. Comme cadavérique, maintenant tout est comme dégénéré. Souvent, lorsque je comparais les plantes et les fruits de notre jardin à ceux du sud, qui sont tous différents, plus grands, plus nobles, plus savoureux, comme par exemple les abricots, je pensais ce que sont nos fruits par rapport aux fruits tropicaux. Les fruits tropicaux le sont encore bien, de bien plus loin par rapport aux fruits de la terre d'origine. J'y ai vu des roses blanches, rouges. Je pensais qu'elles signifiaient les souffrances du Christ et de la rédemption. Elles étaient déjà là au premier matin. J'ai vu des palmiers aussi, et de grands arbres aux larges feuillages qui donnaient une ombre très étendue, comme pour faire une tente. Dès que je vis le soleil, tout était petit sur la terre. Puis tout grandit et devint finalement immense. Les arbres ne poussaient pas serrés les uns contre les autres. Je vis seulement une plante de chaque espèce. Pour les grandes, du moins, lorsqu'on expose seulement un spécimen dans ses parterres, du reste, tout était verdoyant et d'une pureté, d'une intégrité, d'une perfection que ne rappellent en rien les aménagements et les nettoyages effectués par les hommes. Je pensais encore combien tout était beau tant que l'homme n'était pas là. En ce premier matin sur la terre des fleurs et des arbres de vie, pas de péché, pas de destruction, pas de déchirement, tout était beau, sublime, intègre et saint. Rien n'a été soigné, guéri ici, tout était pur, rien n'avait besoin de purification. L'étendue que je voyais était douce et vallonnée, toute recouverte de végétation. Mais au milieu, il y avait une source d'où s'écoulaient de tous côtés des ruisseaux qui se jetaient parfois les uns dans les autres, comme vivants, dans la joie de se rencontrer, de jaillir à nouveau. Et je vis encore et d'abord du mouvement dans ces eaux. Je remarquais des animaux vivants. Et puis ensuite je vis des animaux ça et là parmi les buissons et les forêts comme sortant du sommeil, apparaissant, regardant ça et là autour d'eux, tout éblouis, tout admiratifs de ce qu'ils étaient. Autour d'eux, ils n'étaient aucunement craintifs et tout différents de ce qu'ils sont maintenant par rapport aux animaux actuels. Ils étaient aussi parfaits que des hommes, ils étaient purs, nobles, rapides. Attachant et doux, il est impossible de l'expliquer à quel point. La plupart des animaux m'étaient inconnus. Je n'en vis vraiment aucun comme maintenant. J'ai vu l'éléphant, le cerf, le chameau, particulièrement le rhinocéros, que j'ai vu aussi dans l'arche, où il était remarquablement attachant et doux. Il était plus trapu qu'un cheval, il avait une tête ronde. Mais je n'ai pas vu de singe, pas d'insecte, ni aucune de ces misérables bêtes hideuses. J'ai toujours pensé que c'était là des punitions du péché. J'ai vu de nombreux oiseaux, et j'entendais leurs chants merveilleux comme au matin, mais je n'ai entendu aucun rugissement. Je n'ai vu aucun oiseau de proie. Le paradis existe toujours, mais il est absolument impossible aux hommes d'y accéder. Je l'ai vu, j'ai vu qu'il subsiste toujours dans toute sa splendeur, très haut, séparé en biais de la terre, comme le disque de ténèbres des anges déchus fut détaché du ciel. Puis j'ai vu qu'Adam fut créé, non pas au paradis, mais au lieu même où devait par la suite s'élever Jérusalem. Je l'ai vu sortir éclatant et blanc, d'une colline de terre jaune, comme d'un moule. Le soleil brillait, et je pensais, car j'étais encore une enfant, que le jour avait fait sortir Adam, or, comme une émanation de la colline jaune, et toute dorée de brillance. Il était comme né de la terre, d'une terre qui était vierge. Dieu bénit cette terre vierge, et cette terre vierge devint sa mère. Il ne sortit pas d'un seul coup de la terre. Il y eut un instant jusqu'au moment où il apparut. Adam était dans la colline, allongé sur le côté gauche, le bras replié sur sa tête. Une légère nuée glorieuse le recouvrait comme d'une gaze. Je vis une forme dans son côté droit et compris que c'était Ève qui fut tirée de lui par Dieu au paradis lorsqu'ils y furent. Dieu l'appela et se fit comme si d'un seul coup la colline s'ouvrait et Adam en sortit peu à peu. Là, il n'y avait pas d'arbres, simplement des petites fleurs. J'avais vu également des animaux sortir chacun de la terre, un par espèce, et les femelles s'en détacher. C'est génial. J'ai vu Adam emporté au loin. Il fut emporté dans un jardin situé très haut. C'est le paradis que j'avais vu tout à l'heure. Dans son premier matin, et Dieu conduisit les animaux qui étaient sortis de la terre vierge, chacun selon son espèce. Je les ai conduits, dit Dieu, devant Adam au paradis. Et Adam leur donna un nom et ils le suivirent et ils jouaient autour de lui. Tout lui était soumis. Il n'y avait pas de péché. Ève n'avait pas encore été tirée de son côté. Tous les animaux auxquels il avait donné un nom le suivirent plus tard sur la terre. Je vis Adam dans le paradis, non loin de la source, au milieu du jardin. Et il semblait sortir du sommeil parmi les fleurs et les plantes. Il était auréolé d'une lueur blanche, mais son corps était plus proche de la chair que de l'esprit. Il ne s'étonnait de rien, ni de soi-même. Il se promenait parmi les arbres et les animaux, comme s'il était habitué à tout, comme quelqu'un qui inspecte ses champs et qui connaît déjà tout, dans une science, une connaissance habituelle et innée. Et j'ai vu qu'Adam, près d'une colline, allongé près de l'eau, sous un arbre, le bras gauche replié sur sa joue, s'était fait tomber par Dieu dans un sommeil qui lui était intérieur. Et souriant très doucement, Adam fut ravi en extase et en ravissement. dans un sommeil nouveau et dans la même position que celle d'où il avait été sorti de la terre vierge dans la bénédiction de la nuée blanche. Alors Dieu tira Ève du côté droit d'Adam, à l'endroit où Jésus plus tard fut percé par la lance. Je vis Ève fine, petite, et elle devint rapidement de plus en plus grande, jusqu'à atteindre sa taille définitive et être parfaitement mûre et belle. Sans le péché originel, tous les hommes seraient ainsi nés au cours d'un doux sommeil de ravissement en Dieu. La colline se fendit en Dieu et je vis apparaître du côté d'Adam un roc composé de cristaux de pierres précieuses. Et du côté d'Ève, une vallée toute blanche, comme recouverte de petits fruits blancs et fins comme du froment. Lorsqu'elle lui était formée, je vis que Dieu, je lui répétais cette phrase admirable. Sans le péché originel, tous les hommes seraient ainsi nés au cours d'un doux sommeil de ravissement en Dieu. La colline se fendit en deux. La colline se fendit en deux. Et je vis apparaître du côté d'Adam un roc comme composé de cristaux de pierres précieuses. Et du côté d'Ève, une vallée toute blanche, comme recouverte de petits fruits blancs et fins comme du froment. C'est admirable. C'est à côté la paternité, hein, qui finalement sera celle de Saint Joseph, et la maternité qui sera finalement celle eucharistique de Marie. Lorsqu'Ève eut été formée, je vis que Dieu donnait, ou plutôt répandait quelque chose sur Adam. C'était comme si du front, de la bouche, de la poitrine et des mains de Dieu apparaissaient sous figure humaine. Dieu apparaissant sous figure humaine, s'écoulaient des flots de lumière qui se réunissaient en un globe éclatant. Ce globe entra dans le côté droit d'Adam, d'où Ève avait été tirée. Voilà le fameux dépôt, hein. De Melchisédek, hein. Ce globe entra, je répète, lorsqu'Ève eut été formée, je vis que Dieu donnait, ou plutôt répandait quelque chose sur Adam. C'est comme si du front, de la bouche, de la poitrine et des mains de Dieu qui apparaissaient sous figure humaine, le Fils, s'écoulaient des flots de lumière qui se réunissaient en un globe éclatant. Et ce globe entra dans le côté droit d'Adam, d'où Ève avait été tirée. Adam reçut seul ceci, c'était le germe de la bénédiction de Dieu. Cette forme humaine, voyez, en fait, c'est Melchisédek. La représentation angélique adaptée du Fils unique de Dieu. Dans cette bénédiction était une trinité. La bénédiction qu'Abraham reçut de l'ange était identique. Elle apparaissait sous la même forme, même si elle était devenue moins lumineuse. Ève se tenait radieuse devant Adam, et Adam lui tendit la main. Ils étaient comme deux enfants indiciblement beaux et nobles. Ils étaient tout brillants, revêtus de rayons comme d'une gaze. Je voyais un large flot de lumière sortir de la bouche d'Adam, et sur son front comme une auréole de majesté. Autour de sa bouche, est un soleil de rayons qu'il n'y a pas chez elle. Je vis leur cœur exactement comme celui des hommes d'aujourd'hui, mais des rayons enveloppaient leur poitrine. Ils étaient comme glorieux et au milieu du cœur de chacun, je voyais une auréole brillante, de laquelle se tenait une petite figure qui semblait serrer quelque chose dans la main. Je pense que cela représentait la troisième personne de la divinité. C'était l'unique petite figure qui était dans les deux cœurs et qui représentait la troisième personne de la divinité, et de leurs mains et de leurs pieds aussi, je vis jaillir des rayons lumineux. Leurs cheveux retombaient de la tête en cinq mèches lumineuses. Les mèches cinq, c'est les mèches de la grâce divine, de la lumière divine, de la participation à la vie divine de Dieu. Deux à partir des tempes, deux derrière les oreilles et une dans l'arrière de la tête. J'ai toujours eu le sentiment que les portes du corps humain avaient été ouvertes par les plaies de Jésus, qu'elles avaient été refermées par le péché originel, et que l'onguin avait ouvert aux côtés de Jésus la porte de la nouvelle naissance, de la vie éternelle. J'ai vu les mèches lumineuses rayons sur la tête d'Adam comme sa plénitude, son auréole, l'achèvement des autres rayonnements. Et cette auréole retrouve sa place sur les âmes et les corps glorieux. Nos cheveux sont cette gloire déçue, éteinte, obscurcie, et la comparaison entre notre chair actuelle et celle d'Adam avant la chute est du même ordre que celle de nos cheveux et des rayons de soleil qui couronnaient la tête d'Adam. Adam tendit la main à Ève et ils quittèrent le lieu de la création d'Ève pour se promener dans le paradis, contemplant tout avec bonheur. Le lieu, ce lieu de la création d'Ève, était le plus élevé, le plus haut du paradis. Tout y était, le plus haut de la montagne, c'est le Verbe de Dieu. Tout y était splendeur et lumière, plus que partout ailleurs. Et la description ensuite de l'arbre de la vie, de l'arbre du paradis, l'arbre de la connaissance sur lequel je passe. L'arbre était plus large en haut qu'en bas. Il jetait des branches qui s'enfonçaient profondément dans la terre. Je vois encore cette espèce d'arbre dans des pays chauds. Il jette en terre ses branches comme des pousses qui s'enracinent et forment de nouveaux arbres que se reproduisent de la même façon, si bien qu'un tel arbre constitue souvent un abri sur un immense espace qu'occupe de nombreuses familles. À quelque distance de l'arbre de la connaissance, sur la droite, je vis une petite colline arrondie, doucement inclinée, constituée de cristaux rouges lumineux et de toutes sortes de pierres précieuses. Elle était garnie de degrés en forme de cristaux. Et tout autour d'elle croissaient des arbres élancés suffisamment hauts pour cacher quelqu'un qui se fût trouvé sur la colline. D'autres plantes et végétaux poussaient alentour. Ces arbres et ces plantes avaient des fleurs et des fruits vivaces et multicolores. À quelque distance de l'arbre de la connaissance sur la gauche, je vis une dépression, une petite vallée. Elle était couverte comme d'une terre blanche délicate, de brume et de fleurettes et de grains blancs. À cet endroit aussi croissaient toutes sortes de plantes, mais elles étaient sans couleur et portaient quelque chose qui ressemblait plus à de la poussière blanche qu'à des fruits. C'était comme si ces deux endroits avaient une relation entre eux, comme si la colline devait être déposée dans la vallée, comme une complémentarité de lumière, de couleur, de forme, de vie et d'amour. Elles étaient comme la semence et le champ. Ces deux endroits me parurent sacrés. Je les voyais tous deux lumineux, surtout la colline. Entre eux et l'arbre de la connaissance poussaient toutes sortes de petits arbustes et de buissons. Tout ceci, comme du reste toute la nature, était comme transparent et en lumière. Ces deux endroits étaient les lieux de séjour de nos premiers parents, et l'arbre de la connaissance était comme une séparation entre eux. Je pense que Dieu leur a attribué ces lieux après la création d'Ève, et au début je les vis assez peu se promener ensemble. Je les voyais se promenant chacun à sa place, sans aucune convoitise. Les animaux étaient une grâce inexprimable, tout lumineux. Et ils servaient Adam et Ève. Et chaque animal, suivant son espèce, avait son séjour, son gîte, ses sentiers, ses limites. Sa joie et tous ses cercles d'évolution renfermaient en eux un grand mystère d'ordre et d'harmonie, des qualités de la lumière de Dieu dans la terre. le péché originel. Je vis Adam se promener, je vis Ève se promener, pardon. Et Adam et Ève se promenaient pour la première fois dans le paradis. Les animaux venaient à leur rencontre, les escortaient, s'attachant davantage à Ève qu'à Adam d'ailleurs. Ève s'occupait en général beaucoup plus qu'Adam de la terre et des créatures. Elle regardait plus souvent le sol autour d'elle. Elle semblait plus curieuse, plus admirative. Adam était plus pacifique, plus calme, plus tourné vers Dieu. Parmi tous les animaux, il s'en trouvait un qui s'attacha plus que tous les autres à Ève. C'était une bête extrêmement familière, enjôleuse et docile. Et je n'en connais aucune à quoi je puisse la comparer. Cette bête était en effet toute lisse et mince. Comme si elle n'avait pas d'os, ses pattes derrière étaient courtes. Elle marchait debout, sa queue pointue traînait sur le sol. Elle avait de petites pattes courtes très haut, près de la tête. Sa tête était ronde et exprimait une ruse remarquable. Cette bête avait une langue fine, toujours en mouvement. Ah, vous voyez ? J'en connais plein comme ça. La couleur de son ventre, de sa poitrine et de sa gorge était à peu près blanc jaunâtre. J'en connais d'autres aussi. Et tout son dos était tacheté de brun, presque comme une anguille. Cette bête avait environ la taille d'un enfant de 10 ans. Elle tournait toujours autour d'elle, si docile et folâtre, si agile et curieuse. Curieuse de tout que et de rien, qu'Ève éprouvait beaucoup de plaisir en sa compagnie. Mais pour moi, cette bête avait je ne sais quoi d'effrayant. Je la vois toujours aussi distinctement que cela. Je n'ai jamais vu qu'Adam ou Ève l'aient touchée. Il y avait avant le péché une grande distance entre l'homme et les animaux. Et je n'ai jamais vu nos premiers parents toucher quelconque animal. Et si les animaux étaient plus confiants vers l'homme, ils n'en seraient pas moins à l'écart. Alléluia. Lorsqu'Adam et Ève revinrent à l'endroit lumineux, une silhouette éclatante comme celle d'un homme majestueux aux cheveux blancs étincelants vint à eux et sembla leur donner tout ce qui les entourait, leur désignant tout en quelques mots et aussi leur ordonner quelque chose. Ils n'avaient nulle crainte, ils écoutaient avec candeur. Lorsque cette silhouette disparut, ils parurent plus satisfaits, plus heureux. Ils semblaient mieux comprendre et découvrir un ordre plus grand en toutes choses. Ils en éprouvaient une très vive reconnaissance. Mais Adam, plus qu'Ève, pensait à son bonheur et à ses choses plus qu'à la reconnaissance, parce qu'elle n'était pas aussi tournée vers Dieu qu'Adam. Son âme se penchait aussi, même peut-être davantage, vers la nature. À trois reprises, ils se sont promenés dans le paradis. Alors je vis Adam sur la colline lumineuse où il avait été plongé dans le sommeil, du ravissement en Dieu lorsque Dieu tira la femme de son côté. Il était là, rendant grâce émerveillée en Dieu. Il se tenait tout seul sous les arbres. Dans cette vision concernant Ève, je vis Ève s'approcher de l'arbre de la connaissance comme si elle voulait se tenir près de l'arbre. La bête était de nouveau près d'elle, encore plus folâtre et plus agile. Ève fut toute conquise par le serpent. Elle se complut particulièrement en sa compagnie. Alors le serpent grimpa dans l'arbre assez haut pour que sa tête fût à la hauteur de celle d'Ève. Il s'agrippa au tronc avec ses pattes et tournant la tête vers Ève, il lui parla. Il lui dit que si Adam et elle mangeaient de ce fruit de l'arbre, ils deviendraient libres. Ils ne seraient plus des esclaves. Qu'ils connaîtraient la façon dont ils pourraient se multiplier. Adam et Ève avaient déjà reçu de Dieu l'ordre de se multiplier. Mais j'appris qu'ils ne connaissaient pas les desseins de Dieu à ce sujet. Et que s'ils les avaient su et avaient néanmoins péché, la rédemption eût été définitivement impossible. Dès lors, Ève ne cessa de penser à ce que lui avait dit la bête, et elle s'enflamma du désir d'en savoir davantage. Il se passa en elle quelque chose qui la baissait, et j'en frémis. Alors elle se tourna vers Adam qui se tenait paisiblement sous les arbres, encore dans le ravissement de Dieu, et elle l'appela. Il vint, Ève courut à lui, puis fit demi-tour. Il y avait en elle une hésitation et un trouble. Elle marcha comme si elle voulait dépasser l'arbre, mais en vérité elle s'en approchait, du côté gauche. Puis, s'approchant de lui, elle se tint derrière le tronc, recouverte de ses longues feuilles tombantes. L'arbre était plus touffu au sommet, et ses longues branches flexibles recouvertes de feuilles retombaient jusqu'à terre, à l'endroit où se tenait Ève. Un fruit particulièrement beau était là, qui pendait. Et lorsqu'Adam arriva près d'elle, Ève lui prit le bras. Elle le toucha. Et lui fit part de ce qu'avait dit cette bête qui parlait, et Adam écouta aussi. Lorsqu'Ève prit le bras d'Adam, c'est la première fois qu'elle le touchait. Lui ne la toucha pas, mais tout devint plus obscur autour d'eux. Je vis que la bête montrait le fruit sans oser toutefois le cueillir pour elle. Mais lorsqu'Ève convoita le fruit, la bête le cueillit. C'est la bête qui le prit, l'arracha de l'arbre et le tendit. C'était le fruit d'une grappe de cinq, le plus beau, celui qui se trouvait au milieu des autres. Je vis alors qu'Ève s'approcha d'Adam avec le fruit et le lui donna, et que sans le consentement d'Adam, il n'y aurait pas eu de péché. Je vis que le fruit semblait s'ouvrir dans la main d'Adam. Adam sembla y voir dedans des images. C'était comme s'ils avaient révélation de ce qu'ils devaient ignorer. L'intérieur du fruit était couleur de sang et parcouru de veines. Et je vis qu'Adam et Ève s'obscurcissaient et qu'ils se tassaient dans leur taille. L'éclat du soleil sembla se ternir. La bête sauta de l'arbre et je la vis s'enfuir à quatre pattes. Mais je n'ai pas vu qu'Adam et Ève aient mangé le fruit avec leur bouche comme nous faisons. En vérité, le fruit disparut entre eux deux. Je vis qu'Ève avait déjà péché lorsque le serpent était dans l'arbre, car elle lui avait déjà remis sa volonté. Je compris à ce sujet quelque chose que je suis incapable d'exprimer en paroles. C'était comme si le serpent représentait la forme, le symbole de leur volonté, comme celui d'un être par lequel ils pouvaient tout faire et tout atteindre. Et Satan se glissa dans cette possibilité de forme. Et le péché ne se trouva pas accompli par le seul usage du fruit défendu. Ce fruit renferme en soi la faculté d'une reproduction tout arbitraire, reproduction dans l'ordre des sens qui sépare de Dieu. Reproduction déchue, d'une manière et d'une fonction et d'une forme déchue. Il est le fruit de cet arbre qui plonge ses branches dans la terre pour se reproduire en poussant ainsi de nouveaux surgeons. Ceux-ci se multipliant à leur tour de la même façon, en passant par la boue et les centres et les racines de la terre, dans la déchéance de ses feuilles. Même après la chute et aussi, et en ayant consommé ce fruit dans la désobéissance, l'homme se sépara de Dieu. Et c'est ainsi que la concupiscence s'implanta en lui, et par lui dans toute la nature humaine. Cette usurpation des propriétés du fruit eut en l'homme qui voulut ainsi satisfaire son désir et ses possibilités de volonté propre de funestes conséquences. Ce fut la division, la déchéance de la nature, le péché et la mort. Après la création d'Ève, comme je l'ai dit, Dieu avait accordé à Adam une bénédiction qu'il avait introduite dans le côté d'où il avait sorti Ève. La bénédiction vivante porteuse d'une faculté permettant à l'homme de se reproduire dans la sainteté et la pureté. Cette bénédiction fut retirée à Adam à cause de l'usage qu'il fit du fruit défendu, car je vis le Seigneur passer derrière Adam lorsque celui-ci quitta sa colline pour rejoindre Ève et lui retirer quelque chose. Et il me sembla que le salut du monde devait sortir de ce que Dieu avait repris à Adam. Lorsque la réparation de la chute m'était montrée sous forme de vision, Je voyais Ève qui, à peine issue du côté d'Adam, tournait déjà la tête vers le fruit défendu et courait vers l'arbre pour l'entourer de ses bras. Mais je voyais en même temps, dans une vision opposée, comment Jésus, né de la Vierge Immaculée, se hâtait vers la croix et la serrait dans ses bras. Dès son apparition dans la chair, et comment la descendance de nos premiers parents, souillée et dispersée par la faute d'Ève, retrouvait sa pureté grâce aux souffrances de Jésus. Il m'a été montré comment la convoitise et ses troubles doivent être extirpés de la chair par les douleurs de l'expiation. J'ai toujours ainsi compris que les mots de l'épître aux Galates, selon lesquels le fils de la servante n'a point de part à l'héritage, par ce terme servante on doit entendre la chair et les soumissions serviles qu'elle engendre. Le mariage est un état de pénitence qui exige le renoncement, la prière, le jeûne, la croix, la pratique de l'aumône, le dépouillement de soi-même et dont le but est l'accroissement du royaume de Dieu. Avant le péché originel, Adam et Ève étaient fort différents de ce que nous, misérables humains, sommes à présent. Mais à cause de l'usage qu'ils firent du fruit défendu, ils reçurent un devenir formel et temporel. Et tout ce qui en eux était spirituel se mua en chair, matière, instrumentalité, réceptivité. Auparavant, ils étaient un dans l'un de l'unité avec Dieu et leur volonté ne faisait qu'une avec l'unité vivante et lumineuse de Dieu. Désormais, ils sont divisés dans leur propre cœur, leur propre volonté qui est égoïsme, concupiscence, impureté. En cueillant le fruit défendu, l'homme se détourna de Dieu son créateur et ce fut comme s'il usurpait le pouvoir de créer. Dans l'être humain, toutes les forces, les actions et les qualités et leurs relations entre elles avec la nature entière sombrèrent au niveau de la matière, dans l'ordre corporel et empruntèrent toutes sortes de formes et d'expressions. À l'origine, l'homme avait été établi par Dieu maître de toute la création, pour tout maître de la lumière de Dieu dans tout ce qui était créé, dans les animaux, les plantes, les arbres et les cristaux de toutes couleurs. Et tout se trouvait en lui, hein, aujourd'hui rabaissé au niveau de la nature. Il était comme un seigneur que ses esclaves eussent soumis, et soumis à ses esclaves, et liés par eux. Et il devait à présent lutter et combattre contre ses esclaves auxquels il s'était soumis. Et je ne suis guère capable d'exprimer ces choses. C'est comme si l'homme avait été possédé en Dieu, avait possédé en Dieu l'origine, le centre de toutes choses. Et comme cette origine, ce centre de toutes choses qu'il possédait, il les avait ramenées à lui, si bien que toutes ces choses étaient devenues ses maîtres et qu'il en était désormais esclave. Saint-Anne, quatrième Saint-Anne, quatrième. Nous continuerons demain. Hein.